Cette émission vous est présentée par le laboratoire TerraScience, expert en compléments nutritionnels et recommandé par les professionnels de santé depuis plus de 25 ans.
Objectif, physionutrition. Jacques Bassier sur Nutri Radio.
Bonjour docteur.
Bonjour monsieur Fabrice.
Le docteur Jacques Bassier, chaque jeudi, ben ça commence bien, mais parce qu'il faut dire Jacques Bassier chaque jeudi, déjà c'est une bonne séance d'orthophonie.
C'est dur, hein, c'est dur.
Ah non, mais déjà si on fait ça.
Dyslexique que tu es.
Exercice d'orthophonie, comme ça, directement, bam, d'entrée de jeu. Aujourd'hui avec vous, on va parler de l'endométriose, puisque c'est un cycle tout à fait féminin entre le SPM, le SOPK aujourd'hui, l'endométriose. On en a déjà parlé également sur cette antenne de Nutri Radio, mais c'est bien d'en parler avec un médecin avec cette approche de la physionutrition, avec dans un premier temps, revenir sur ce que c'est. Ensuite, à quoi c'est dû, et voilà, aborder les solutions en physio-nutrition avec un petit focus également sur les conséquences autres que l'hypofertilité. Ce sera tout à l'heure. Pour l'instant, on va démarrer par le début, si vous voulez bien. C'est quoi l'endométriose, Jacques ?
L'endométriose, c'est une sacrée vacherie. C'est une maladie, on appelle ça chronique immuno-inflammatoire. Alors, ça veut dire quoi, chronique? Ben, ça veut dire que c'est dans la durée, hein. Ça persiste dans le temps. Immuno-inflammatoire, ben, ça veut dire que c'est pas que hormonal. C'est l'inflammation, principalement, qui va occasionner les dégâts de l'endométriose. Or, c'est quoi? C'est la présence de cellules de l'endomètre, endométriose, de l'endomètre en dehors de la cavité utérine. Il y a des formes, plusieurs formes de l'endométriose. On va venir en détail comment se fait-il qu'il y ait des cellules en dehors de l'endomètre dans le corps. Il y a ce qu'on appelle les endométrioses superficielles. Il y a aussi ce qu'on appelle les endométrioses pelviennes profondes et des endométrioses ovariennes qu'on appelle aussi endométrium. Bien souvent, ces différentes formes sont associées. Il y a dans 50% des cas des endométriums, donc des formes ovariennes. Il y a aussi des formes pelviennes profondes associées. Il y a aussi ce qu'on appelle le phénotype utérin. Le phénotype utérin, c'est l'adénomyose. Donc, endométrium, adénomyose, endométriose, mais ça veut dire à peu près la même chose. Simplement, c'est pas les mêmes localisations. Alors, la fréquence quand même est importante, parce que là aussi, c'est une femme sur 10. On avait vu la dernière fois, la semaine dernière, je crois, sur les syndromes ovaires polykystiques, c'était une femme sur 10 en âge de procréer. Mais là, c'est pareil, c'est une femme sur 10. Heureusement, c'est souvent pas les mêmes. Mais malheureusement, voilà, c'est encore une fois une femme sur 10 qui va souffrir d'endométriose sans le savoir bien souvent. Donc, c'est une femme sur 10 en période d'activité génitale, parce qu'il faut que les œstrogènes, vous allez voir, soient actifs pour que la souffrance soit là. Donc, en France, ça représente quand même 2,5, une estimation de 2,5 millions de femmes en France en âge de procréer qui ont de l'endométriose. Le gros problème de l'endométriose, c'est le retard de diagnostic. On estime entre 7 et 10 ans le retard de diagnostic pour mettre un mot sur des douleurs, sur des gènes, plus que des gènes, des douleurs, chez ces femmes-là. Et on sait que 30 à 40% environ des femmes qui sont atteintes d'endométriose vont aussi avoir une hypofertilité. C'est la deuxième cause d'hypofertilité avec les syndromes des ovaires polykystiques dont on a parlé la semaine dernière. Voilà, donc voilà un petit peu le tableau de l'endométriose. C'est quoi? C'est des cellules de l'endomètre, qui donc l'intérieur de l'utérus, qui sont dans une situation anormale, c'est-à-dire en dehors de l'endomètre, qui vont s'implanter dans différents tissus.
7 à 10 ans, l'errance,
7 à 10 ans,
l'errance ouais, diagnostic. Ouais. Pouf, oui.
C'est... Ouais, parce qu'on peut confondre avec, on en avait parlé, des syndromes prémenstruels. Alors, bien souvent, syndrome prémenstruel, c'est quelques jours avant les règles. Là, vous allez voir, la symptomatologie est durant tout le cycle. Mais bien souvent, c'est un peu plus avant les règles ou associé à un syndrome prémenstruel, et du coup il y a un retard de diagnostic assez important. Et vous savez qu'actuellement il y a une grande campagne pour essayer de sensibiliser les gens et les thérapeutes, les médecins surtout, les gynécologues, un peu plus encore, à l'endométriose.
On marque une première pause et on se retrouve dans un instant avec le docteur Jacques Bassier sur Nutri Radio.
Le laboratoire TerraScience, conseillé par les professionnels de santé depuis plus de 25 ans, conjugue rigueur scientifique et innovation pour vous proposer des compléments nutritionnels naturels et performants. Choisissez TerraScience pour une santé optimale avec la garantie d'une expertise et d'une qualité inégalée. TerraScience, vivre le plus longtemps possible en bonne santé.
Objectif, physionutrition. Jacques Bassier sur Nutri Radio.
Et on remercie notre partenaire sur ces émissions, le laboratoire TerraScience. Donc, le docteur Jacques Bassier pour parler d'endométriose aujourd'hui. À quoi c'est dû l'endométriose, docteur ?
Alors, il y a un reflux mécanique. C'est-à-dire, ça, c'est, on est certain absolument de cette chose-là. C'est-à-dire que lors des règles, au lieu de sortir par le vagin, il y a des reflux qui se font dans les trompes de Stache vers les ovaires. Donc, un reflux rétrograde de ce flux de cellules de l'endomètre. C'est les cellules de l'endomètre qui desquament lors des règles. Et à partir de là, donc, normalement, ça ne devrait pas aller en arrière, mais sortir du corps, bien sûr. Et là, ça reflue dans, principalement donc, dans la trompe de Stache. Dans la trompe de Stache, c'est les oreilles, excusez-moi. Dans les trompes qui font le lien entre les ovaires et l'utérus. Et là, c'est un joli lapsus que je viens de faire.
C'est pas le même endroit.
J'ai bien, pas bien entendu, docteur. Et à côté de ces facteurs mécaniques, donc, il y a des facteurs physiologiques comme des prédispositions génétiques, des facteurs environnementaux, des facteurs hormonaux, de l'inflammation, du stress oxydatif. Il y a un phénomène assez particulier qui s'appelle l'angiogénèse et la neurogénèse. C'est-à-dire, angiogénèse, c'est des nouveaux vaisseaux qui vont se fabriquer et des nouveaux neurones aussi qui vont être présents sur le site d'implantation de ces cellules de l'endomètre dans des endroits non prévus à cet effet. Donc, du coup, on se retrouve donc avec ce reflux tubaire menstruel observé chez 10% des femmes qui seront pathologiques. Il faut savoir que 90% des femmes ont un reflux tubaire menstruel, c'est-à-dire que ça va en partie un petit peu dans le tube vers les ovaires, mais que pour uniquement 10% de ces femmes-là, il va y avoir le problème d'endométriose. Alors, on sait que c'est un attachement à l'épithélium péritonéal dans le péritoine, donc dans l'abdomen, ou au niveau des trompes, ou au niveau de l'ovaire. Cet attachement, il va y avoir ensuite une invasion de l'épithélium, et ensuite, c'est à ce moment-là qu'il va y avoir l'établissement de ce qu'on appelle la neurovascularisation locale, donc des nouveaux neurones, des nouveaux vaisseaux. Les vaisseaux vont pouvoir amener donc du sang, des facteurs de croissance, du nutriment, pour que ces cellules puissent se développer. Donc, de petites cellules qui ont migré dans un endroit normal, il peut y en avoir plein qui vont proliférer dans d'autres endroits, et il va y avoir en plus cette neurovascularisation qui va entretenir un petit peu ces cellules et faire en sorte qu'elles puissent grandir et survivre dans un endroit qui n'est pas prévu à cet effet encore une fois. Donc, vous voyez que c'est complexe, et ces cellules de l'endomètre, bien sûr, elles ont des récepteurs hormonaux, et notamment récepteurs œstrogéniques. Et chaque fois qu'il va y avoir, donc, par la vascularisation qui a été créée, ces cellules alimentées par les œstrogènes, bien, comme toute cellule de l'endomètre vis-à-vis de l'œstrogène, l'œstrogène est un facteur de prolifération et de croissance, il va y avoir donc une croissance cellulaire, et il va y avoir de l'inflammation, du stress oxydatif, d'où, bien sûr, un inconfort et des douleurs. Le symptôme majeur qui va se produire, c'est bien sûr la douleur. Une cellule anormale dans un abdomen, ça fait mal, ou dans des trompes, ça fait mal aussi, bien sûr. Donc voilà un petit peu ce qui se passe. Il y a le reflux tubaire plus ces facteurs d'angiogénèse, de dysrégulation immunitaire, de stress oxydatif, d'adhésion, d'invasion, enfin voilà, et de déséquilibre hormonal aussi qui s'y ajoute pour produire un peu les effets.
Alors, au-delà de l'hypofertilité, d'autres conséquences de l'endométriose, docteur ?
C'est la douleur. C'est la douleur qui est une vraie catastrophe. Donc, l'hypofertilité, bien sûr, ça touche pas mal de femmes, mais au-delà du pourcentage de femmes hypofertiles, c'est la douleur. On appelle ça les 6D. C'est les dysménorrhées, c'est les douleurs menstruelles, douleurs lors des règles. Il y a aussi des douleurs pelviennes, chroniques, de type qu'on peut confondre aussi avec des troubles fonctionnels intestinaux, comme souvent ces amas d'endomètre viennent se mettre sur le péritoine, touche presque le côlon. Il y a souvent des problèmes digestifs associés. C'est 50-80% des femmes qui ont aussi des troubles digestifs, de douleurs de type intestinal avec des troubles du transit. Le troisième D, c'est la dysurie, c'est-à-dire qu'il peut y avoir dysurie, c'est des problèmes lors des émissions d'urine, des mictions douloureuses ou gênantes, des brûlures. Ça peut faire penser à des infections urinaires, mais c'est associé en plus donc avec ces douleurs lors des règles, avec ces douleurs pelviennes. La dysfertilité, on en a parlé, ça représente environ 30-40% des femmes qui ont une endométriose. Et la dyschésie, c'est la difficulté d'exonération des selles. Comme il y a ces facteurs inflammatoires proches du rectum, le péritoine proche du rectum, c'est des localisations préférentielles. On appelle ça le cul de sac de Douglas. C'est un petit partie du péritoine complètement en bas vers le pelvis, touchant le rectum. Et bien, il y a des problèmes lors de l'émission des selles. Et pour 50-70% des cas, il y a ce qu'on qu'on appelle des dyspareunies, c'est le sixième D, c'est des douleurs lors des rapports sexuels, bien souvent. Donc, vous voyez que ça fait beaucoup de dys, beaucoup de douleurs, six types de douleurs qui s'associent plus ou moins les uns avec les autres, les unes avec les autres. Mais il n'y a aucune corrélation entre l'ampleur des symptômes, des douleurs, donc, principalement, et la taille ou l'ancienneté de l'endométriose. On peut avoir une très grosse endométriose avec peu de 6D ou beaucoup, beaucoup de 6D hyperalgie et vraiment très fort, tout cela, avec pourtant peu de secteurs d'endométriose. Vous voyez que c'est un petit peu vicieux. Ce qui est embêtant, bien sûr, c'est la qualité de vie. Hein, c'est 7 femmes, 8 femmes sur 10 disent souffrir de manière très intense. Et du coup, avec un impact sur leur qualité de vie, sur la vie de couple. Donc, s'il y a des douleurs lors des rapports sexuels, vous imaginez bien que c'est pas d'un grand confort, donc il peut y avoir des évitements, le conjoint ou le partenaire en souffre, il comprend, mais il en souffre aussi, il aimerait peut-être que ce soit un peu plus. Donc voilà, il y a 2 femmes sur 3 qui disent que l'endométriose a un vrai retentissement sur leur qualité de vie, que ce soit sur la vie sexuelle, le plan psychologique, le plan physique, la relation globale amoureuse et vie de couple, les activités de loisirs aussi, où des femmes évitent de faire certaines choses lors de ces douleurs par exemple.
Et effectivement, la douleur, c'est juste, voilà, stop à la douleur et une reconnaissance quand même de la maladie. J'espère qu'on est dans quelque chose d'un peu plus concret. Auparavant, il n'y a pas si longtemps que ça, pour remédier à cette douleur insupportable et toutes ses conséquences, on parlait de l'ablation de l'utérus, donc l'hystérectomie, pardon. Est-ce que vous pensez que c'est efficace? Parce que je connais des personnes qui ont eu l'endométriose qui l'ont fait et elles avaient toujours les douleurs après. Donc là, c'est quand même un peu compliqué.
Si on revient un petit peu sur les différents types d'endométriose, bien sûr, il peut y avoir une endométriose qui se fait au niveau de l'utérus, c'est l'adénomyome, et que cette localisation utérine. Dans ces cas-là, vous enlevez l'utérus et les douleurs vont disparaître, bien sûr. Mais quand c'est aussi des douleurs pelviennes profondes ou d'autres localisations, ce qu'il faut, c'est enlever les amas de cellules anormalement présentes de l'endomètre dans l'abdomen, donc dans le péritoine, contre le côlon ou contre le rectum. Donc vous comprenez bien qu'au-delà de l'hystérectomie, d'enlever l'utérus, ça dépend des localisations, le geste chirurgical qui est souvent amené à être pratiqué. On enlève ces amas anormaux, on nous fait donc laparoscopie, et donc on va rentrer un petit tube dans le ventre pour essayer de localiser. Donc ça veut dire que avant tout cela, avant des gestes chirurgicaux, bien sûr, le diagnostic est fait par l'imagerie principalement, c'est-à-dire diagnostic des localisations. L'examen roi aujourd'hui, c'est l'IRM abdominopelvienne. On peut faire bien sûr une écho endovaginale avec Doppler qui va permettre de voir bien sûr l'utérus, les localisations au niveau utérine, mais aussi au niveau des trompes et au niveau des ovaires, et ce qui est pas très loin de cet utérus dans le pelvis, mais l'IRM abdominopelvienne, comme son nom l'indique, ben ça explore aussi l'abdomen, et là on va aller voir les localisations qui sont un peu plus hautes, situées dans le péritoine. Donc on peut faire aussi une hystéroscopie, mais voilà. Donc au-delà d'enlever l'utérus, c'est d'abord 1, diagnostic d'endométriose, 2, confirmation par l'imagerie, 3, bien souvent la chirurgie bien sûr, et au-delà de la chirurgie, il peut y avoir ce qu'on appelle des castrations chimiques, c'est-à-dire qu'on va essayer, on va arrêter complètement les sécrétions d'œstrogènes, parce que le facteur, comme je vous l'ai dit, proliférant et donc antalgique, c'est quand il y a des sécrétions d'œstrogènes. Donc pour certaines femmes, si on ne passe pas par la chirurgie, on peut leur proposer chimiquement d'arrêter le cycle. Donc bien sûr, il n'y a pas de procréation possible. Et c'est comme si on provoquait une ménopause précoce pour pouvoir ne pas alimenter le corps en œstrogènes.
On va marquer une dernière pause et on va revenir avec les solutions ou en tout cas les approches aussi en physio-nutrition. C'est juste après ceci sur Nutri Radio. Restez avec nous.
Objectif physio-nutrition. Jacques Bassier sur Nutri Radio.
Le docteur Jacques Bassier sur Nutri Radio avec vous pour vous parler d'endométriose aujourd'hui. Alors on est revenu sur la définition, sur les conséquences, sur les causes même, avec parfois des solutions radicales. Et justement, peut-être que la physionutrition peut aider à aborder ces symptômes difficiles et cette pathologie qu'est l'endométriose.
Oui, tout à fait. Donc, bien sûr que le côté radical, le mot fait peur, bien sûr, mais quand vous enlevez l'utérus, bien sûr, si vous avez 25 ans, c'est vraiment pas rigolo. avoir des enfants derrière, c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que bien souvent, cette solution, elle est radicale. D'un sens, c'est un geste chirurgical, mais elle est nécessaire aussi. Donc, pas enlever l'utérus, mais aller nettoyer les parties où il y a de l'endométriose, donc y compris dans le péritoine. Et on va faire donc une petite chirurgie qui va gratter un petit peu ces amas-là. Donc, c'est jamais anodin, bien sûr, mais ça se pratique très facilement. Et aujourd'hui, c'est quand même le premier traitement, il est là. On enlève, on appelle ça dans les endroits ectopiques, c'est-à-dire pas dans la bonne localisation de ces cellules endométriales. Donc la première des choses, c'est quand même ça. Après, ce que la physio-nutrition, eh bien, elle comprend que son rôle ne peut être que modeste, mais quand même présent, c'est essayer de calmer l'inconfort et les douleurs principalement. Vous avez vu que les 6D, donc, c'est du digestif, c'est du gynécologique aussi, c'est du pipi, c'est de voilà, il y a tout ça qui peut être un peu gênant. Et la physiopathologie, on en a vu qu'il y avait aussi donc les œstrogènes qui sont plus ils sont présents, plus ils vont donner une stimulation de ces cellules endométriales et donc du coup possiblement des douleurs. Donc on va essayer de lutter aussi contre l'œstrogène, en tout cas contre l'hyperœstrogénie. Donc en premier lieu, la douleur, il y a des molécules connues aujourd'hui pour lutter contre la douleur, contre les spasmes, contre l'anxiété en physionutrition. On va utiliser quelques dérivés de plantes qui sont possiblement intéressants, comme l'achillée millefeuille, qui est justement un petit côté anti-œstrogénique. Et aussi anti-spasmodique et légèrement anxiolytique. La mélisse, le romarin peuvent être utilisés dans cet esprit-là. Mais au niveau de l'antalgie, il existe aujourd'hui un petit produit qui s'appelle le PEA. C'est un dérivé huileux de cannabis, pardon. Donc c'est pas le CBD, c'est pas la même chose. C'est le PEA, donc c'est de l'huile. Et cette huile est très antalgique. Elle joue sur les circuits cannabinoïdes, les circuits cannabis de la douleur, et donc du coup ça c'est quelque chose qui marche très très bien pour pouvoir soulager un petit peu la douleur de l'endométriose. Après on peut essayer de limiter la congestion. Alors il y a des plantes, de nouveau la chilée est intéressante dans ce côté-là, et la mamélise par exemple qu'on utilise dans tout ce qui est veineux, ben la mamélise est tout à fait intéressante pour lutter contre la congestion. Donc au-delà de l'achillée millefeuille aussi pour l'hyperœstrogénie, il y a le romarin qui est intéressant, les vitamines B9, B12 parce qu'elles permettent d'évacuer, d'éliminer plus facilement l'œstrogène, de métaboliser l'œstrogène. C'est deux vitamines importantes pour ça. Et après, il y a tout ce qui est digestif, donc les troubles fonctionnels intestinaux et ce qui va avec, on y reviendra peut-être lors d'une prochaine émission, l'hyperperméabilité intestinale, cet intestin qui est agressé et qui est un peu poreux. Mais là, on a des molécules connues pour l'intestin poreux comme le butyrate, c'est un dérivé de fibres qui devient un corps gras quand les bactéries mangent ces fibres et métabolisent tout ça. Ça devient des petits corps gras, des petites graisses, le butyrate, et c'est très anti-inflammatoire au niveau colique notamment, du côlon. Le romarin, la mélisse aussi peuvent être intéressantes, le zinc, la vitamine D. Donc il y a plein de choses. De nouveau, la chilée millefeuille là aussi peuvent soulager. Donc vous voyez qu'avec ça, suivant l'expression, on peut, comme souvent, soit voir globalement et mettre tous ces produits. Il existe des produits qui mettent tous ces ingrédients ensemble, mais aussi on peut essayer d'individualiser par rapport au type de souffrance qu'il y a et amener plutôt beaucoup de butyrate ou beaucoup de PEA et ainsi de suite. Et on peut aussi, bien sûr, toujours ce qui va avec derrière tout ça, c'est inflammation, stress oxydatif. Et là, bon, vous connaissez certainement le resveratrol, la quercétine. Quercétine, c'est des dérivés qui sont contenus dans l'oignon, resveratrol dans le vin rouge, le romarin, et qui vont pouvoir être utiles comme le sélénium aussi. Zinc, sélénium, vitamine D qui ont des effets anti-inflammatoires et antioxydants. Donc avec tout ça, c'est un arsenal qu'on a pour essayer de soulager les douleurs. Soulager les douleurs, ben c'est énorme en médecine aussi, ne plus avoir mal, faire baisser ce chiffre de douleur sur une échelle de 0 à 10. Là, quand vous êtes à 9 sur 10, on vous fait baisser à 5 sur 10, vous êtes content. La journée n'est pas la même. Donc voilà, c'est accompagner ces femmes dans la douleur. La physionutrition a des arguments pour pouvoir soulager ces douleurs. Donc, accompagner des petits gestes chirurgicaux ou éventuellement des modulations hormonales par des pilules dans ces moments-là pour calmer les douleurs. Donc, ça paraît peu, mais c'est beaucoup. Et c'est basé. Ce qu'il faut, donc, c'est connaître la physiopathologie et connaître, donc, qu'est-ce qui se passe, l'hyperœstrogénie, les spasmes, l'anxiété, la congestion, les problèmes digestifs, et trouver, donc, en face de, une réponse en face de ces symptômes-là.
Eh bien, merci beaucoup, docteur Jacques Bassier. On va se retrouver la semaine prochaine. On continue hein, le grand cycle de la femme, le grand cycle féminin, puisqu'on parlera de périménopause. Ce sera jeudi prochain à partir de 10h sur Nutri Radio. D'ici là, cette émission, elle est dispo en podcast à partir de dimanche 18h sur NutriRadio.fr, mais également sur toutes les plateformes de streaming audio. Au revoir, docteur.
Merci, Fabrice. À très bientôt.
Et c'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio.
Objectif, physionutrition. Jacques Bassier sur Nutri Radio.